Podcast.com. Essaye ça.
L'Express du 21 novembre. J'entendais pas la musique, mais j'ai entendu la grosse voix. Ils sont un petit peu différents hein, quand on fait ça ensemble, moi et Alex, parce qu'on n'est pas équipés de la même façon. Mais ça fonctionne, on est là, on a des choses à dire. Comment vas-tu, puis comment tu t'arranges avec la fameuse grève des enseignants?
Écoute, distinguées salutations à toi, Frank, ainsi qu'à tout ce qui est la nation.
On faisait la même affaire, tu sais, je me suis assis devant ma caméra, puis distingué, salutations, chers collègues. Moi, j'ai bon, salut. On voit qui a de la classe ici et qui en a pas, hein,
Hey, on reprend ça, je te suis mute. Distingué, salutations, tout ce qui est nation, et Frank Pocket.
Salut! Est-ce que tout le monde a entendu les distinguées salutations qui m'étaient adressées par mon collègue Alex?
Je pense que oui. Je pense que là, c'est correct.
Ouais, sur mute, le show est un peu plus. C'est un peu moins bon.
Hein,
c'est ça. J'ai l'air de parler tout seul. Ouais. Puis je réponds à des questions que personne ne peut entendre sauf moi. Non, tout le monde nous entend. On est là, on est en onde. On est le 21 novembre. C'est la première journée d'une grève de 3 jours des enseignants et nous avons à nous occuper d'infants à la maison dans les 2 cas. Hein.
Exactement.
Comment ça s'organise, toi? C'est pas pire?
Plutôt bien. Ça s'organise plutôt bien. On a une chance inouïe, moi et mon épouse, de pouvoir faire beaucoup de télétravail. Therefore, on peut faire une espèce de high-five virtuel puis prendre la relève et ainsi de suite. C'est sûr que les mardis, ben, je suis un peu cantonné dans l'atelier slash cantonné derrière le micro. Mais c'est déjà entendu là, avec dans la routine familiale anyway. Sinon, j'ai une deuxième chance inouïe, c'est d'avoir un enfant qui trip faire du dessin. Donc, il est présentement, du haut de ses 8 ans, en train d'explorer les façons de faire de l'ombrage par estompe pour des natures mortes.
Ah, wow!
Cool. Ouais, c'est ça. Moi et mon épouse, on a pogné, comme on dit en bon français, 1-2 minutes.
Ah, c'est cool, ça. Ah, moi, je l'ai mis dans sa cage, là. Il est bon pour une bonne heure, là, le temps qu'on fasse le show, là.
Ça, ça, oublie pas de mettre de l'eau. Hein?
Non, mais sa cage, c'est un écran allumé. C'est tout simple que ça, là. C'est, je l'attache à sa laisse, qui est une télécommande. Et j'ai choisi pour lui un épisode de dessin animé en français. Pourquoi? Parce que, pas en français, mais en anglais.
Ouais.
Parce que l'anglais, la meilleure façon de l'apprendre, c'est pas à l'école, c'est en l'entendant, en le pratiquant. Moi, pour vrai, j'ai eu de la misère en anglais là, jusqu'à ce que j'aille vivre en Outaouais, puis que je remarque que tout le monde utilisait des mots anglais. « Hey, t'es allé voir une gig hier, c'était super fucking tight, puis je comprenais rien. » Moi, j'arrivais de Québec, j'avais aucune idée de ce qu'ils disaient. Je me disais « Voyons, tout le monde est anglais, si tout le monde parle anglais, moi, je comprends pas l'anglais. » Puis là, j'étais à part, puis j'étais rejeté, tout ça. Fait que
pis, si t'as pas l'opportunité d'être dans le bain de l'anglais,
tu l'apprendras jamais.
La théorie c'est une chose, mais la seule façon d'apprendre à nager, c'est en se lançant à l'eau.
Ouais, c'est ça, tu sais, la théorie c'est ça. Tu regardes du monde nager sur YouTube, mais une fois que t'es dans l'eau, c'est pas pareil. Puis tu sais, je comprenais absolument rien de ce qu'il disait. Fait que je me suis mis à écouter la télé en anglais avec certains de mes amis, puis je leur demandais de me traduire. J'avais un ami qui était bilingue. Puis j'ai fini par apprendre l'anglais comme ça, en consommant de la culture en anglais. J'écoutais à l'adolescence des dessins animés, puis aussi des Simpsons. J'écoutais Fresh Prince of Bel-Air avec Will Smith. J'écoutais des émissions en anglais, puis j'ai fini par apprendre l'anglais comme ça. Pour me rendre compte que finalement, les gens que j'entendais parler en anglais en Outaouais parlaient pas anglais, ils parlaient juste mal, ils parlaient juste en chiac, parce que en allant, oui, Pornhub en anglais, oui. Puis
c'est
toujours bien déplacé, notre ami Suburban, on aime ça, et puis tu sais, puis je me suis aperçu après ça que tu sais, ils disaient plein de mots en anglais, mais ils étaient pas capables de parler en anglais pour vrai, puis ils comprenaient pas tant en anglais, puis là j'étais rendu le meilleur de ma classe en anglais, parce que je l'avais appris en écoutant TV, puis eux autres, même si la moitié des mots qu'ils utilisaient étaient anglais, Il parlait pas anglais, il parlait juste mal. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis d'apprendre l'anglais, puis je me débrouille bien. Je suis pas bilingue, mettons, comme Martin, mais je suis très, très fonctionnel en anglais, on va le dire comme ça.
Ben, moi, c'est une question d'économie, d'argent, qui a fait en sorte que j'ai appris l'anglais.
Ah, tu pouvais pas te payer des postes de TV en français?
Non, des livres.
Oh.
Dans le milieu du gaming, les livres, mettons, à l'époque, là, on parle de Donjons et Dragons 2e édition, pour ceux qui sont dans le chat, qui savent de quoi je parle.
OK, t'es pas dans Nintendo Power, là, t'es dans les...
Non, on parle
livres de jeux de rôle.
Dans le jeu de rôle, particulièrement les éditions TSR, le livre de règles en anglais était 20$. Le livre de règles même, mais traduit en français, 40.
C'est déjà surprenant qu'il existe.
D'où de maths.
Ah
pas compliqué.
Oui. Ah oui.
Fait que c'était comme ça que, par contre, c'est sûr que ça te cantonne à un vocabulaire terriblement restreint, mais au moins ça t'ouvre les œillères.
Ben, les phrases sont les phrases. Je veux dire, OK, ça va être le linguo, le vocabulaire du jeu, mais je veux dire, le reste, la construction des phrases, puis comprendre de ce que ça dit, ben, c'est une bonne chose. Ailleurs, c'est la première fois que je vous vois un à côté de l'autre. Vous vous ressemblez en. C'est pas des affaires à dire. C'est pas vraiment fin pour Alex de dire qu'il me ressemble. on se ressemble-tu pour vrai? Enlève tes lunettes. Enlève nos lunettes. C'est pas ça, les lunettes. Non, là, je ressemble à un prédicateur un peu maillet.
Voilà. Moving on.
Moving on. Non, ça ressemble pas tant que ça. Là. C'est peut-être. Lave tes lunettes. Pas ta gueule. Non, ça se peut que.
Pourquoi tu ressembles?
Les bruits squeegee.
Oui, c'est ça. Il manque juste les petits effets sonores.
Ah, ça, c'est bourbon, je laisse ça.
Oui, c'est le meilleur avec les pitons. Je suis capable des fois d'en faire, là, c'est quand ça donne. Là, ah ouais, yeah, tu en as eu un.
J'en ai eu un.
Ouais, ça, c'est des applaudissements. J'ai celle-là. Donc, aujourd'hui, on souligne la grève des enseignants. Vas-tu l'utiliser à toutes les sauces? C'est le ras-le-bol qu'on exprime des travailleurs pour leurs conditions de travail qui sont pas mal poches.
Ok, on arrête les gens.
De toute façon, je viens d'utiliser l'intégralité des trois effets sonores qui sont programmés sur ma console.
Encore heureux, on n'est pas sur Discord, sinon t'en aurais quatre autres.
J'en aurais quatre autres, dont les fameux criquets. Mais là, ben c'est ça. Les profs ont débrayé des manifestations, oui. Justement au rythme de la chanson La manifestation des Cowboys fringants. C'est un trait de circonstance. Puis on s'aperçoit quand on lit leurs arguments que, Colin, ça fait dur de la façon dont on les traite, spécialement le personnel de soutien. Là. Tous ceux qui ont des enfants qui ont des besoins particuliers savent très bien de quoi je parle. On le vit ici. Il y en a juste plus de d'employés de soutien, là, des orthos, des je connais même pas tous les titres, là. Mais il en manque. Il y a des choses dont on nous a fait la promesse que l'enfant bénéficierait parce qu'on nous a confirmé qu'il en avait besoin et il n'a pas le service parce qu'il y a personne pour le faire ou parce que cette personne-là est surchargée. Mais en plus, ils sont pas bien payés. La moyenne salariale du personnel de soutien...
Combien, ouais?
C'est décourageant. C'est 23 400.
C'est décourageant.
23 400. Tu vis pas avec ça, là.
Non.
Il y a 20 ans, tu vivais pas avec ça. Ben, tu vivais dans un taudis 1,5, sale qui pue, avec des coups de feu dans la ruelle. Puis,
mais le coût de la vie n'était pas le même. Tu sais, je veux dire, mais tu dis quoi, il y a 20 ans? Mettons, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, 10, 15 ans. Moi, j'habitais un énorme 5,5 à Limoilou, qui me coûtait la tonitruante somme de 575 par mois.
Ah oui, j'ai eu la chance d'avoir un appartement comme ça aussi. En 2010, je me suis installé à Rouyn-Noranda après que j'ai signé un contrat avec RNC Média. Puis j'ai eu la chance de tomber sur un appartement, un grand 10,5 sur 3 étages, 500, chauffé, éclairé. Cet appartement-là, d'où j'ai fait toutes les émissions que vous avez vues à partir de Rouyn. C'est-à-dire depuis à peu près 2 ans, je ne suis plus là, mais j'étais encore là. Ça a augmenté évidemment avec les années, mais pas tant que ça. Mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment chanceux d'avoir... Parce que à l'époque où j'ai eu ça, les appartements étaient déjà rares. C'est que j'étais coloc avec quelqu'un qui m'a cédé son appartement. Puis c'est comme ça que j'ai eu. Mais j'étais sûrement le meilleur deal en ville là, de côté logement. J'étais vraiment très choyé de ce côté-là. Mais les appartements, maintenant, c'est cher. J'ai fait le même coup avec mon ami Super Dave. Puis je lui ai légué mon appartement de la même façon. Fait qu'il doit être autour de, je sais pas, 700, une affaire de même. Mais chauffé, éclairé, puis bon, c'est sûr que c'est pas un appartement, c'est pas un bloc neuf, puis il y a des cracks dans les murs qui laissent tellement rentrer le froid que ça fait du vent.
Mais il y a le niveau aussi, si je ne m'abuse, j'ai parlé avec Dave la dernière fois qu'il est venu à Québec.
Écoute, je sais que vous avez tous vu des planchers croches dans votre vie, là. Et je dis ça à chaque personne qui vient chez nous, là, qui venait chez nous. Je disais... Vous avez tous vu ça, un plancher croche, mais vous avez jamais vu croche comme ça. Ben non, hey, moi à Montréal, puis moi à Québec, puis là j'en ai Jude. Non, non, viens voir. Puis là, je les fais entrer dans ma chambre, je les laisse au pas de la porte, puis je descends dans le fond de ma chambre. C'est un pied de différence, là.
Ah oh oui, c'est ça, il y a un pied de différence.
Un pied,
un 12 centimètres.
Aucun sens. Pour que la seule chose qui est au niveau dans cette pièce-là, c'est le lit, parce qu'on met des blocs en dessous des pattes vissées dans le plancher. C'est le plancher le plus croche ever. Mais tu sais, c'est un bloc bâti à la va-vite dans une boomtown, là, proche de la mine, d'ailleurs très, très proche de la mine, là, de l'ancienne mine qui a été transformée en fonderie et qui maintenant est une usine à poison qui sert à empoisonner les humains de la ville. D'ailleurs, il faudrait que j'essaie de faire un petit suivi là-dessus parce que le 15 novembre, si je me trompe pas, il y avait une consultation publique, une séance d'information plutôt, à propos d'un recours collectif qui serait intenté contre la fonderie Horn et qui pourrait donner... L'anthologie ne paie pas de mine. Excellent mot d'esprit, Clovis. Attends,
ah, tu l'as dit?
Non, c'est pas le bon. Je m'en sers tellement jamais. On va le réessayer. Attention. Ton logis ne paie pas de mine. OK, c'est le dernier, piton. Mais, ah oui, c'est ça. Un recours collectif qui, selon les calculs de ceux qui intentent le recours, qui sont deux citoyens, qui ont fait appel à une firme d'avocats quand même bien versée dans le domaine. Ce sont eux qui ont obtenu la compensation pour les résidents et les victimes de Lac-Mégantic. Donc, ils connaissent ce genre de cause-là. Et ça pourrait donner aux citoyens de Rouyn-Noranda, pour ceux qui sont dans le quartier Notre-Dame, c'est-à-dire dans mon coin, mais ça, je suis pas certain si je suis juste sur la limite, en dehors ou dans le quartier Notre-Dame, mais des montants qui ressemblent à 215 000 dans ce coin-là, puis environ à peu près 100 quelques mille pour ceux qui vivent à l'extérieur de la ville, dépendamment évidemment le nombre d'années que tu as été exposé. Moi, vu que j'ai été empoisonné pendant une décennie, j'aurais le montant maximal si jamais ça devait arriver. Puis pour vrai, c'est des gros chiffres. Oui, c'est des gros chiffres. Oui, c'est sûr que ça changerait ma vie. Là.
C'est des gros chiffres, mais c'est
pour les cancers puis les maladies, puis les problèmes de croissance. Comment?
Parlons au chanteur de Gontouet.
Oui, effectivement, c'est ça. D'ailleurs, je lui ai parlé aujourd'hui même, pas à propos de ça, là, mais tu sais, c'est effectivement, lui, on ne sait pas si le cancer qui lui a coûté une jambe a été causé par la mine, mais tu sais, c'est parce que tu peux juste pas le prouver facilement, ces affaires-là. Sauf que quand tu dis qu'un collectif de médecins s'élève et sorte publiquement pour dire là, le taux de cancer à Rouyn-Noranda est anormal. Il y en a beaucoup trop. T'sais, ça se peut pas que ce soit pas relié à la mine, même si on n'est pas capable de le calculer. Quand les médecins, c'est pas un conspi qui dit « Ah, il y a ça, il y a ça, c'est pas Joe Lindigo qui fait des théories à la mort moelle-neuve, là. T'sais, c'est des médecins qui font des observations. Puis d'ailleurs, il y a toutes sortes d'études qui ont été faites là en 50 ans, là, fait que... Puis,
c'est de l'ordre du quantifiable et du vérifiable.
Oui, c'est ça. Puis, du compensable aussi, monétairement. Là, parce que tu peux pas redonner la santé à ceux qui l'ont perdu. Tu peux pas ressusciter les morts. Tu peux pas faire disparaître le cancer. Mais au moins, essayez de vous excuser un petit peu. En tout cas, c'est ce que va tenter de faire ce collectif-là, c'est-à-dire de forcer la fonderie à s'excuser parce qu'il faut les forcer parce qu'eux autres, ils s'en sacent qu'on meurt, eux autres. Pour vrai, c'est le dernier de leurs soucis. Là, ils sont genre au Chili ou je sais plus dans quel pays. Puis, ils en ont rien à cirer de la souffrance que leur usine cause. L'important, c'est le cash qui rentre. Là. Puis, juste, ils sont prêts à laisser des gens mourir pour ne pas investir dans des systèmes qui réduiraient la pollution ou bien de diminuer leur activité. Ce qui compte, c'est l'argent. Puis si ça tue du monde, bah, pour eux autres, on est des moustiques. Puis ils s'empêcheront pas de mettre leur petite lampe bleue là, t'sais, pour tuer les moustiques. Là.
Non, c'est ça. C'est du dommage collatéral.
Oui, oui, c'est ça. Pour eux autres, c'est ça. C'est exactement comme on est un nid de fourmis à l'endroit où ils essayent de faire de l'argent. Là, puis s'il y avait moyen de nous piler sa tête, c'est ce qu'ils feraient ou nous faire disparaître. D'ailleurs, c'est ça qu'ils ont l'intention de faire. C'est-à-dire de démolir le quartier puis de relocaliser ces gens-là. Ce qui est pas l'idéal parce que ce quartier-là est quand même proche du centre-ville. Puis c'est pas un quartier très favorisé. Fait que ils ont pas tous deux chars par maison, puis ils ont pas tous un char, tu sais. Fait que si tu les relocalises dans des coins comme le projet Sénateur, qui est à l'extérieur de la ville, puis dans une ville où il y a zéro transport en commun, ben je dis zéro. 0.01, là. Il y a un autobus fantôme qui passe à des heures mystiques deux fois par jour et qui va à un endroit dont personne ne connaît, là. Tu sais, il y a un autobus, là, mais c'est inefficace parce qu'il n'y a pas de concentration de population assez pour ça. Mais, tu sais, il n'y a pas de vrai transport en commun. Fait que ces gens-là se retrouveraient isolés dans un endroit où ils peuvent pas avoir accès, ne serait-ce qu'à un dépanneur pour acheter du lait.
Fait que, de toute façon, même s'il y aurait un projet de transport en commun, c'est sûr que c'est la Caisse de dépôt de placement qui va finir par s'en occuper.
Ouais, c'est ça. T'as peu. C'est celui-là? Ça va être le jour des effets sonores. Mais bon, c'est ça. Revenons à nos moutons. Le salaire moyen du personnel de soutien, c'est 23 400$. Tu vis pas avec ça. Tu survis en dessous du seuil de la pauvreté et pas qu'un peu. Donc, les 420 000 travailleurs du secteur public qui sont représentés par la CSN, CSQ, FTQ, APTS, le Front commun, ont commencé une grève de 3 jours. Comment vous arrangez à la maison? Écrivez ça dans les commentaires. Vous faites quoi avec vos enfants? Est-ce que vous les mettez devant...
J'en ai vu quelques-uns tantôt qui passaient. Les gens d'emblée écrivaient un peu leurs moyens, comment ils s'organisaient. Il y en a justement, là, ça se transforme en mini-garderie à la maison. Puis d'ailleurs, hein, c'est drôle, des fois, pour faire contre mauvaise fortune, bon cœur, les gens présentement sont plus en mesure de pouvoir s'organiser lors de tels coups du hasard qu'il y a, mettons, 5 ans. Pourquoi?
Télétravail.
On a eu un exercice magistral, une pandémie.
Mm-hmm. On a appris à vivre chez nous puis à travailler à partir de la maison.
Entre autres,
mais tu sais, s'organiser. Vive le télétravail.
Ah oui, c'est ça.
Il dit « Vive le télétravail, mes enfants sont bienvenus dans mon milieu de télétravail.
Ben, » Mon bébé, c'est Jepienne qui vient de se lever.
Ça, c'est pas pire.
I can relate.
Ça se nourrit tout seul. Ça ramasse pas nécessairement sa vaisselle, mais ça peut se nourrir. Ça peut survivre tout seul quelques minutes, c'est Jepienne, en 2023. Là, pas autant qu'avant, mais quand même.
Mais c'est ça, tu sais, j'oserais dire, grâce au confinement, on a bien des gens ont pu se développer. C'est pas des trucs, des fois, c'est un réseau de contacts.
Ça a-tu cogné à ta porte, là?
Comment?
Ça a-tu cogné à ta porte, là?
Non, je pense qu'il y en a un qui a échappé de quoi. Hein?
Ah, OK. C'est parce que vous avez dit, comme il est sur mon lieu de travail, mais pas tant que ça. Il viendra pas dans le studio intervenir dans l'émission. Je l'ai scotché devant devant un écran. Puis après ça, on va aller dehors parce que par chez nous, il fait soleil. C'est une belle journée. Puis j'ai une plante à aller transplanter dehors. Fait qu'on va aller faire ça cet après-midi. Essayer de sortir un peu. Tu sais, des fois, là, les faire, c'est... Il y en a qui sortent par eux-mêmes qui vont jouer dehors. Il y en a qu'il faut que tu les obliges un peu à aller jouer dehors parce que sinon, ça ne sort pas beaucoup.
Ben, moi, Fiston, lui, c'est ça qui va arriver. Puis d'ailleurs, présentement, il reçoit son ami à la maison, qui sont normalement dans la même classe, et ils ont l'intention d'aller jouer à l'école. Puis c'est parfait. Je veux dire, il y a en masse de supervision.
Ils vont jouer au pitage.
Faire la grève. Ben oui.
Regarde, donne-leur un bâton de hockey, mets une petite pancarte, puis... j'ai joué à ça, moi, quand j'étais petit.
Ben oui.
Mon père était syndicaliste, moi, et j'en ai vécu des manifs. J'en ai vu, puis j'en...
Moi, j'ai découvert ça avec le cégep, moi.
Ah oui, c'est vrai. Alors moi, c'est assez jeune. T'sais, c'est sûr que quand j'avais 10 ans, ils m'amenaient pas dans les manifs. Là. Mais j'ai participé à quelques manifs. T'sais, pas vraiment des manifs là, t'sais, de revendications, tout ça, puis de sujets que je comprenais pas, mais une manif pour la paix qu'il avait organisée avec d'autres personnes, notamment à Montréal, lors de la guerre du Golfe, la première, et puis celle de Bush père. Puis oui. C'était une belle expérience pour moi. C'était une grosse manifestation, 50 000 personnes. Là. C'était quand même huge. Puis il y a une manifestation que mon père a organisée et qui est célèbre, qui est très célèbre même. J'ai pas pu y aller parce que il a pas accepté que je manque de l'école pour aller avec lui à Ottawa scraper la fête de l'unifolié pour Sheila Copps et Jean Chrétien en faisant une manifestation qui contestait une réforme de l'assurance chômage. Et c'est durant cette manifestation-là que mon père a organisé que Jean Chrétien a décidé de pogner les nerfs, traverser la foule puis aller péter à gueule d'un manifestant.
Tu parles de ça, hein?
Oui.
Moi, j'ai eu mon lot de manifestations aussi, puis là, mais je suis rendu à un âge où je suis encore en âge d'aller manifester, mais je serai en âge aussi d'amener le plus jeune. Puis j'ai une réticence, moi, d'amener mon kid pour deux points. Et le premier, c'est que tu sais jamais quand ça va dégénérer.
Ouais.
J'ai pas le goût de l'amener dans un lieu où il y a un potentiel visibilité. On sait que ça peut, on l'a vu puis on continue à le voir, ça peut dégénérer. Il y a tout le temps, il y a un pourcentage où ça peut
dépend
arriver.
Des manifs. C'est sûr que des manifs étudiantes, c'est plus bouillant, ils se tirent plus de boules de billard là que de manifs pour la paix, par exemple.
Ouais, mais une manif
avec
pour
Richard
la paix,
c'est Séguin qui parle en face.
Oui, mais ça peut être craché par n'importe qui à cette heure. Puis
maintenant oui. Non, les conspi hijack, tous les exemples. Manifs. Oh, ouais.
Puis le deuxième, ben c'est con, mais il y a 8 ans, c'est pas nécessairement ses opinions à lui.
Non, c'est ça, il faut qu'ils comprennent les enjeux.
Tu peux pas te mettre dans la bouche, genre, ça, là, c'est important, viens, tu vas manifester. Ouais, mais je fais papa.
Je comprends pas.
C'est 8 ans. Il comprend pas. Il s'en contrefou. C'est peut-être pas, tu sais, à un moment donné, laissons-les être des enfants.
T'sais. Non, c'est ça, tu manifestes pas sur des enjeux que tu comprends pas, là, tu sais. Fait que moi, il m'a amené à la manifestation pour la paix. La paix, je comprenais c'était quoi. Il y a la guerre dans un autre pays, on est contre ça, on est pour la paix, je suis allé. Il m'a pas amené pour la... Oui, c'est ça, Dr. Vizou, la Shawinigan Handshake. Le manifestant...
C'est quoi, c'est la Shawinigan Handshake?
C'est comme ça qu'on a appelé ce gate-là, là, cet événement-là, parce que Jean Chrétien, il s'est fâché, puis plutôt que de quitter la lorsqu'il voulait s'en aller de la façon appropriée, c'est-à-dire par en arrière avec ses gardes du corps, parce que c'était le premier ministre du Canada, lui, il a décidé de foncer dans la foule, direct sur les manifestants, sur mon père et sa gang, d'ailleurs, on le voit dans les reportages, et de s'attaquer au plus petit d'entre eux, qui s'appelle Bill Clenett, William Clenett, son vrai nom, c'est un ami de mon père, il venait des fois à la maison. Puis il l'a empoigné, il y en a qui disent à la gorge, mais en fait, il a pogné la tête. Il a pogné la mâchoire en avant comme ça, puis la nuque. Puis il l'a pris comme ça, puis il s'est mis à le brasser comme ça. Mais tu sais, Jean Chrétien, là, pour ceux qui le savent pas, c'est un homme d'une bonne carrure. Hein? C'est plus de 6 pieds, puis c'est quelqu'un de solide. Puis William, lui, pour vrai, il doit mesurer 5 pieds, 5, 6. Là, c'est un des rares anglophones du Québec souverainiste que je connais. Et puis, non, je criais pas « Go Saddam » en 80. C'est des limites. Puis il a tellement serré fort qu'il a pété une couronne. Là. Il a cassé une dent qui avait une couronne. Cette image-là, évidemment, ces images-là ont fait le tour du monde. Là. Un premier ministre qui s'en va attaquer un citoyen directement dans une manif, le pogné par la tête. Faut dire qu'il était pas peureux. Hein? Jean Togg, le Chrétien. Mais c'était pas très approprié. C'était pas très premier ministre comme comportement. Il y avait pas beaucoup de décorum, le mot de la semaine. Ça a fait le tour du monde, là, puis il y avait des images, puis des chandails, tout ça, de Bill Clenett avec sa fameuse capine, tu sais, une truc avec des affaires qui couvrent les oreilles, là. D'ailleurs, mon père lui avait offert expressément parce qu'il gelait des oreilles dans les manifestations. Finalement, il se l'est fait voler, cette capine-là, qui était célèbre. Il y a quelqu'un qui a décidé de voler ça. C'est très comique. Cette manifestation-là était organisée par mon père et quelques collègues. Puis le but de la manifestation, c'est de décrier une réforme de l'assurance chômage qui était très très pénalisante pour les assurés. Et puis, Jean Chrétien, c'est la version politique du Montreal Screwjob, pour ceux qui connaissent le monde de la lutte. Mais ouais, c'était une anecdote assez particulière. Puis quand j'ai vu ça aux nouvelles, je savais que j'aurais dû y aller. Moi, j'avais 15 ans. Là, t'sais, c'était en 95-16 dans ces coins-là. Maudit que je me voyais là. Moi, Mais j'avais pas pu y aller. Mon père a décidé que mon éducation était plus importante que mon endoctrinement syndical. Ou plutôt militaire. Mais non, il a pris la bonne décision, là. T'sais, c'est sûr. Mais dans la tête d'autres 15 ans, aller à l'école une journée ordinaire, ou aller sur la colline parlementaire pendant que ça brasse puis il se passe des affaires. Là. C'est sûr que, tu sais, j'étais déçu. Mais bon, moi, j'étais pas là pour la manif, j'étais là pour le party. Puis comme des fois, dans certaines manifs, notamment des manifs étudiantes, des fois, tu poses des questions à certains manifestants, puis ouais, c'est quoi vos revendications? Je revendique à quoi? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Venez battre, fais beau, tu sais. C'est souvent
la plainte cérébrale.
Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as genre le petit syndicat étudiant, l'association étudiante, qui eux autres ont des revendications claires, puis t'as une gang de tripeux qui sont juste là pour fumer des joints pendant une belle journée de printemps, puis ils sont là pour le party de la manif plus que pour les revendications comme telles. Mais je pense que là, du côté des
mais en même temps, ça va peut-être aujourd'hui en prendre des manifestations prochainement, parce que ce conflit-là n'est pas parti pour se régler dans le temps. Hein. D'entrée de jeu, là, on a pour 3 jours officiels. Moi, à Québec, je pense que même vendredi, il n'y a pas de retour en classe. Je lisais dans le chat tantôt, il y a des gens en plus de ça, dont les étudiants, les professeurs souhaitaient joyeux Noël et ramasser vos effets personnels dans vos casiers. Fait que ça veut peut-être dire que ça va.
Ça se peut qu'on ne venait pas tout de suite. Non, ben écoute, la dernière offre gouvernementale, c'est 10,3% d'augmentation sur 5 ans, assorti d'un petit bonbon de 1 000 $ la première année. C'est quand tu gères un ménage, une famille, des enfants, c'est de la marde, là. C'est pas grand-chose, 1 000 $. Là. Ça baisse de 1 000 $ ta marge de crédit qui est dans le rouge. Puis on ajoute 3% réservé des priorités gouvernementales. Ça veut dire que c'est eux autres qui vont décider ultimement à qui ils donnent ça et quand. Mais ils l'incluent quand même dans l'ensemble de leur offre qu'ils évaluent à 4,8% sur 5 ans. Écoute, les syndicats, ils ont tellement rejeté cette offre-là, et tellement dérisoire selon eux, qu'ils ont même pas fait de contre-offre. Là. Québec demande une contre-offre, mais je pense qu'on va attendre. Commencez par faire une offre qui a de l'allure, puis on verra si on fait une contre-offre ou si on accepte. Mais là, vous riez de nous autres avec vos petits bonbons puis votre petite 10%. Je vais quand même rappeler que le personnel de soutien, des gens bien importants, gagnent juste 23 400 en moyenne par année. Tu ne peux pas vivre avec ça, encore moins faire vivre une famille, puis te payer une maison, tu sais, puis je veux dire, avoir de l'avenir. Tu vois pas, quand tu gagnes 23 000 par année, tu fais juste survivre en t'endettant plus puis plus puis plus. Tu peux avoir aucun projet d'avenir. Là. Fait que c'est pas satisfaisant. Fait que le gouvernement retourne.
Et à partir de jeudi, c'est la FIC qui va embarquer dans le mouvement.
Ah oui, c'est
jeudi, vendredi, c'est les 2 journées de, j'allais dire de manifestation, mais les 2 journées de grève et du réseau de la santé. Fait que tu sais, c'est pas parti pour bien se passer.
Tu sais, c'est l'éducation puis la santé, c'est les deux ministères qui coûtent le plus cher, les plus difficiles à gérer, puis les plus difficiles à organiser. Puis là, on a un ministre qui gouverne en réaction, c'est-à-dire quand un problème est assez grave pour passer dans les nouvelles, on s'y attarde, sinon on attend que la tempête passe pour on espère s'en sortir. Tu sais, il faut s'arranger là, pour choyer ces gens-là, parce que c'est eux autres qui bâtissent la société de demain. En tout cas, c'est eux qui forment et outillent ceux qui vont bâtir la société de demain, c'est-à-dire celle dans laquelle toi puis moi, on va vieillir et crever. Puis moi, ça me tente pas de crever dans un centre de personnes âgées insalubre avec puis partager mes petits biscuits goglus avec des rats, là. Puis passer mes journées à regarder pour, la vie se dérouler dans une vitrine. Il y a beaucoup trop de gens déjà qui finissent leur vie dans un état de pauvreté et qui ont pour seul divertissement que de regarder la vie à laquelle ils ne peuvent pas participer à travers une vitre. Si on veut un avenir que de l'allure pour nous, si on est trop égocentrique pour aider ces gens-là, pensons au moins à nous, là. Puis si on veut avoir une société qui a de l'allure pour vieillir puis crever dedans, ben il faut que les enfants qui vont la bâtir soient bien outillés. Oui.
Non, c'est ça. C'est Martin qui faisait référence au tarif horaire de l'heure minimum versus une semaine normale de travail qui, normalement, devrait avoisiner les 30 000 $ par année. Puis ça demandait pourquoi se parlait de 23 000. Ben, il y a déjà quelqu'un dans le chat qui a répondu qu'ils font rarement leurs 40 heures pour la plupart. Puis aussi une chose, c'est qu'eux n'ont pas d'étalement de paye sur toute l'année comme un professeur. Ce qui fait qu'il y a un bon 2 mois par année aussi où ils doivent réclamer du chômage.
Mais s'ils font pas...
C'est pour ça.
Mais pourquoi ils feraient pas 35 heures par semaine? D'ailleurs, j'imagine qu'ils le font pas, là, si on se salaire là. Est-ce que, pourtant, le besoin est criant? Est-ce qu'on les barouette trop d'une école à l'autre? Comment ça fonctionne, ça, pour vrai? Je serais bien curieux de savoir ça. Puis aussi, pourquoi c'est si difficile pour des profs, encore aujourd'hui, d'obtenir leur permanence? On niaise nos profs. En plus de mal les payer, on les niaise. C'était supposé être réglé, mais quand on parle à des gens sur le terrain, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui attendent encore leur permanence et qui sont obligés de se promener d'école en école en école pendant des années puis des années avant d'avoir une job permanente qui a de l'allure, là, tu sais.
Ouais, puis c'est pas parti pour se régler. Tu sais, quand t'as des tweets comme celui de François Legault d'aujourd'hui, là, que des garçons me disent qu'ils auraient choisi l'éducation si les salaires étaient plus élevés.
Ah, de son propre aveu.
Ouais, mais les garçons. Fait que j'ai aimé la réponse de Léa Streliski qui dit « On salue les hommes qui choisissent de travailler avec les jeunes, même s'ils ont un salaire de femme. »
OK, c'est... C'est une excellente pointe. On va aller faire une petite pause là-dessus.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
C'était une petite pause, mais pas n'importe laquelle. Avez-vous vu l'assortiment? Allez voir ça, ce fromage au village. Googlez ça, vous allez trouver ça tout de suite. Il y en a tout un assortiment. Ça, j'aime bien ça quand on inclut des petits saucissons avec des fromages, des choses qui vont ensemble. J'aimerais ça qu'on fasse comme on a déjà fait avec les membres du Deep Steak, c'est-à-dire une dégustation organisée avec la fromagère dirigée, puis c'était vraiment cool. Mais ça se déguste très bien aussi tout seul, même en pleurant sur ses conditions de travail. Ça console toujours bien de la bonne bouffe, mais surtout, la saison est à ça. Là, c'est le temps là, de faire ses provisions. Avec le temps des fêtes qui va arriver en plus, on va commencer à recevoir tout ça, mais c'est du fromage, c'est du comfort food. L'hiver, on veut manger bien, on veut manger un petit peu gras, on veut des bonnes saveurs, puis l'assortiment arrive tout le temps juste au bon moment.
Ouais, moi, le problème, c'est que j'en ai commandé qu'un seul, puis à la vitesse où normalement ça arrive à la maison, ce qui est comme fort rapide, je pense que je n'aurai d'autre choix que d'en commander un second.
Oh oui, non, mais c'est ça. Arrange-toi pour pas en manquer, parce que ça crée une dépendance, il paraît.
Effectivement. Parlant de nourriture...
Ouais, ouais.
Parlons braconnage.
Ah, Colin, ouais. Encore un beau sujet que... joyeux.
Oui, on est bon là-dedans. Parce que c'est un événement qui date de mi-octobre, mais c'est parce qu'il y a eu des développements dernièrement concernant ça. Mi-octobre, il y a une femelle caribou qui a été abattue en Gaspésie. Puis jusque-là, tu fais comme, ben oui, tu sais. Pauvre petite bête, puis c'est tout. Le problème, c'est que c'est un cheptel de approximativement entre 37 et 36 têtes. Il n'y a pas beaucoup de femelles, voire c'est l'avant-dernière du cheptel, ce qui commence à sonner le glas pour ce troupeau-là, à cet endroit-là particulier. Pourquoi j'en parle un peu? Mais c'est parce qu'il y a eu quelques développements là-dessus. Parce que effectivement, il y aurait des personnes d'intérêt qui auraient été rencontrées et de la viande qui aurait été saisie. C'est ce lundi, si je ne m'abuse, donc hier. Puis la façon qu'ils ont été capables de retrouver la femelle en question, c'est qu'il y avait beaucoup d'efforts qui avaient été mis en place pour justement la protéger. Sauvegarder ces femelles-là. Donc oui, à un point tel que l'hiver dernier, elle avait été capturée, mise en enclos pour l'été.
Pour sa gestation?
Simplement pour la préserver. pas pour une question de gestation. Ils lui ont mis un collier, ils l'ont remis dans la nature, et à un moment donné, ben, le collier s'est avéré légèrement immobile pendant un trop grand laps de temps. Fait que, maître chien et drone ont été déployés sur place pour retrouver finalement qu'un collier.
Ben, je sais que le ministère de l'Environnement et la protection de la faune avait justement comme mis en enclos plusieurs caribous. Ça s'est fait aussi dans le coin de Val-d'Or pour le caribou forestier, mais là, on parle du caribou montagnard en Gaspésie. Puis principalement des animaux qui étaient en gestation pour protéger leur faim des prédateurs. Parce qu'il y a des loups, il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent manger ça, des ours, des... Fait que pour protéger l'espèce, parce que comme tu disais, il en reste 38, là. Le topo normal, c'est entre 700 et 1500.
Ça va de 32 à 38, 39.
Mais il est censé en avoir autour de 1000, entre 700 et 1500. Là. Fait qu'on...
On est loin. Faut être calme. C'est une espèce qui est classée. Si je ne m'abuse, je vais juste regarder. C'était dans celui-ci. Parce que... Bref, en voie de disparition ou en espèce en danger, tout dépendant si on est au provincial ou au fédéral. Il y avait deux terminologies d'utiliser dans un des articles que j'ai consulté ce matin.
En Gaspésie, ils sont pratiquement disparus, là.
Puis, c'est jamais une bonne chose d'avoir une espèce qui commence à disparaître, peu importe laquelle. Moi, ça m'a un peu interpellé, pas parce que je suis un chasseur, même si j'ai la possibilité de pouvoir, j'ai mes papiers, j'ai l'équipement et tout, mais finalement, j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir pratiquer l'activité. Puis je dis l'activité parce que la chasse régulée a son rôle.
Ben oui.
Il y a un rôle à jouer et c'est pour ça qu'il y a des règles qui sont établies, des espèces qu'on ne peut pas chasser, des périodes de l'année, puis ainsi de suite. Et ça aide, dans le fond, dans le milieu de la chasse, ils parlent pas d'abattre, mais plutôt de prélever.
Ou récolter, oui.
Ben, en tout cas, dans mes cours, moi, c'était prélever qu'ils disaient. D'ailleurs, ça a tout le temps été un sujet de discussion.
Dans les émissions de chasse et pêche, je dirais, il a récolté un magnifique boc, 32 pointes. Puis, mais ouais, c'est ça, tu sais, c'est pas... Le fun, c'est pas de tuer, là. C'est parce que c'est ça. Il y a des préjugés sur les chasseurs que j'aime pas. Surtout de citadins qui connaissent rien à la chasse, qui connaissent pas de chasseurs, côtoient pas ces gens-là, puis ils disent « Pourquoi ils vont pas à l'épicerie? Ils tuent des pauvres animaux! » Ben oui, les animaux à l'épicerie, non seulement ils ont été tués aussi, mais ils ont passé leur vie dans des conditions exécrables. Fait que, tu sais, c'est comme les tatas qui étaient... qui ont menacé de mort la mairesse de... attends que je retrouve
pas
son
Longueuil?
Nom. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait plusieurs cerfs là dans un des parcs. Puis il y en avait trop, genre beaucoup trop. Puis lorsqu'on les a abattus pour donner la viande aux pauvres en plus, la mairesse a reçu des menaces de mort. C'est-tu Catherine Fournier? Je pense que oui. Des menaces de mort là, par des animalistes. OK, moi j'écoute les écologistes, j'écoute les biologistes, les animalistes, je les encule. Je déteste ces gens-là. Là. Ils ont aucune espèce de... Leurs arguments sont pas appuyés par la science ni rien. C'est juste dans leur cœur. Eux autres, ils arrivent puis ils rentrent d'une porcherie. Bon, on vous libère, les cochons, allez vivre dans la nature librement. Puis ils s'en vont tous crever de faim sur le bord de l'autoroute. Là, t'sais. C'est des gens complètement déconnectés qui ont pas d'aspect scientifique à leur modus operandi. Puis, comme tu disais, la chasse a son rôle puis elle régule certaines espèces qui deviennent invasives. Si, parce que ça fait des centaines, voire des milliers d'années que la chasse est pratiquée là, ici. On est un prédateur, oui, plus performant que les autres, mais on joue un rôle. Et les troupeaux d'animaux, généralement, sauf en cas de surchasse, il y a eu des... sauf en cas de surchasse, le troupeau ajuste sa reproduction selon la chasse. C'était le cas des phoques du Groenland, puis il y a les phoques autour des îles de la Madeleine, de la Nouvelle-Écosse, puis tu sais, les phoques qui descendent sur les glaciers, puis qui passent le puis il y a, en fait, t'as les phoques du Groenland qui descendent avec les glaciers, mais t'en as aussi qui sont là à l'année. Et puis, le troupeau normal, c'est autour de 2 millions, je pense. Avec une chasse responsable, ça se tient autour de ça. Avec la surchasse, ça a déjà descendu autour de 500-600 000. Mais la surchasse, c'est les années 40 et 50, là, puis c'est peut-être un peu 60. Mais depuis, la chasse avait été régulée, puis tout était en équilibre, tout allait bien jusqu'à ce que l'Union européenne écoute des broyages d'animalistes qui arrivent avec des arguments qui sont pas scientifiques, juste avec des images choquantes pour faire pleurer les gens, puis susciter le petite fibre paternelle et maternelle en nous, en montrant des blanchons qui sont plus tués depuis 70 ans, genre, mais en montrant des blanchons puis qui pleurent un peu comme des enfants. L'Union européenne a banni tous les produits du phoque. Résultat, il y a une surpopulation épouvantable dans le golfe du Saint-Laurent de phoques, tellement que ils sont en train de décimer les populations de maquereaux, de morues et de harengs. La pêche au hareng n'est plus...
Je le savais.
Ouais, la pêche au hareng n'est plus pratiquée depuis des décennies aux Îles-de-la-Madeleine. Je vais parler juste de ce que je connais. La pêche à la morue, il n'y en a plus de commercial. Cette année, il n'y en avait pas. Juste un petit peu de pêche récréative. On avait le droit à temps, à des quotas. Je suis allé. Mais, tu sais, c'est Quand un animal est habitué de vivre avec avec la chasse, il se reproduit en fonction de ça. Puis si t'arrêtes du jour au lendemain toute la chasse, puis on est obligé de faire ça parce que la viande de phoque est pas assez connue, pas assez distribuée, puis elle ne plaît pas à tout le monde. Ben, c'est pas tout le monde qui est prêt à y goûter. C'est la peau qui valait quelque chose. Aujourd'hui, une peau de phoque, ça vaut absolument rien. Puis ça vaut plus la peine d'aller chasser. Tu sais, y en a encore un petit peu, mais le plus gros marché a décidé de bannir ce produit-là. Fait que les phoques se reproduisent tellement que les espèces indigènes de poissons disparaissent, puis on se ramasse avec plus de prédateurs comme des grands requins blancs qui sont de plus en plus nombreux, apparemment. C'est pas nécessairement un problème, mais au moins, ils vont essayer de compenser un peu, mais ça compense pas. Il y a vraiment trop de phoques. Puis c'est la même chose avec les cerfs à bien des endroits au Québec. Puis c'était le cas à Longueuil. Puis quand on a juste voulu donner une chance, donner un petit coup de pouce à la nature, puis faire notre job de prédateur, puis en plus donner la bouffe à des familles pauvres qui ont de la misère à manger, les animalistes qui ont pensé le mieux à faire, c'est d'aller menacer la mairesse. Gang de caf. Les animalistes font de la désinformation, des faux documentaires, utilisent des images qu'ils mettent eux-mêmes en scène. Tu sais, je me rappelle, tu sais, il y a des gens maintenant qui surveillent les animalistes, là. Lors d'une séance de chasse au phoque, il y a un phoque qui avait été mal abattu. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Hein? L'abattage de phoque est plus efficace. L'abattage réussi de phoque est plus efficace sur les banquises que dans les abattoirs fédéraux. Là. Il y a moins de souffrance inutile sur la banquise pour les chasseurs de phoque que dans un abattoir fédéral de vaches, de poulets, de whatever. Et puis, il y en a un qui était mal abattu, qui souffrait un peu. Puis plutôt que d'abréger ses souffrances ou d'avertir un chasseur de venir compléter le travail, ils l'ont mis en scène. Ils l'ont filmé avec le sang. Puis après ça, là, il essayait de sauver dans l'eau. Non, il ramenait, il le replaçait pour faire la shot parfaite qui allait choquer les gens, les gens qui allaient susciter des dons et des affaires comme la PETA, puis IFA, ouais. Puis des groupes animalistes comme ça, la Sea Shepherd. Font des millions avec la chasse aux phoques. C'est eux autres qui font l'argent avec la chasse aux phoques parce que leur sensationnalisme et leur désinformation suscitent énormément de dons. Même s'ils font de la désinformation, ils s'en foutent. Ils disent, ah, nous autres, l'argent rentre. La présidente de PETA, là, elle fait pas en bonne 1 million par année. Oui.
Tu te connais mieux que moi pour ce qu'est la chasse aux phoques, moi étant plus un chasseur terrestre. Sais-tu encore tu au bat de baseball? Non, mais ben, je réponds à l'interrogation de quelqu'un dans le chat.
OK, le fameux gourdin, ça peut encore être utilisé, mais généralement, c'est avec un instrument qui s'appelle un acapic. C'est un bâton d'à peu près, je dirais, 5 pieds de long, au bout duquel il y a un percuteur et un crochet. Le percuteur, c'est comme un marteau, puis le crochet, c'est vraiment un crochet en métal. On varge pas à coups de crochet dans le ventre des phoques, là. T'sais, c'est le but, c'est puis ça se fait aussi à l'arme à feu. Le but, c'est toujours d'offrir à l'animal une mise à mort la plus efficace et rapide possible, avec le moins de souffrance possible, sans nécessairement briser le produit qui est la peau. Souvent, on va tirer une balle dans la tête, ou sinon avec l'acapic. Puis l'acapic, ou même le fameux gourdin qui ressemble à un bat de baseball. D'ailleurs, j'en ai un. Je sais juste pas où il est présentement, mais je pourrais vous le montrer. Un authentique, là, tu sais, qui doit avoir plus d'un siècle. Il y a du sang de phoque séché dessus. Là. C'est extrêmement efficace parce que le phoque, le crâne du phoque à la hauteur des yeux, juste dans le front, c'est assez mince que quand tu donnes un coup là, tu fracasses le cerveau instantanément et la mort clinique est automatique. Il meurt sur le coup. Sauf que...
bon appétit, tout le monde.
Ben, écoute, pour moi, c'est pas vrai. J'ai le goût d'aller en manger du phoque après. J'en ai. Puis, Un bâton comme Negan, je sais pas c'est quoi. Mais c'est que tu le frappes puis il meurt instantanément. Mais l'affaire, le phénomène dont profitent les désinformateurs animalistes, c'est que une fois qu'il est mort, le phoque, il se met à bouger, à frétiller. Ça s'appelle le réflexe natatoire. En fait, c'est comme un poulet. Un poulet, quand tu y coupes la tête, là, il souffre plus, là. Sa tête, il est mort. Il est mort. Mais il court quand même pendant plusieurs secondes, voire minutes. Ça s'appelle le réflexe échappatoire. C'est juste les nerfs qui actionnent les muscles. Mais il n'y a aucune conscience. L'animal, le poulet, il n'a plus de tête, là. Il ne peut plus souffrir. Il ne peut pas décider d'essayer de se sauver. C'est un réflexe qui est purement mécanique. Fait que ça s'appelle le réflexe échappatoire dans le cas d'un poulet ou d'un animal terrestre. Puis dans le cas d'un phoque, vu qu'il y a des nageoires, on appelle ça le réflexe natatoire, mais c'est le même phénomène. Et ça, c'est la preuve que l'animal est cliniquement mort. Sauf que les désinformateurs animalistes présentent ça comme une preuve qu'il n'est pas mort. Fait que là, ils montrent des phoques qui ont été abattus et qui shake. Puis ils disent, regardez ça, cet animal-là souffre parce que le cruel chasseur veut pas le tuer comme il faut. Il se réjouit de sa souffrance. C'est dégueulasse ce que ces gens-là disent. Puis ils réussissent à embrigader toutes sortes de personnes, des personnalités, la calisse de Brigitte Bardot. Je sais qu'on se disait, on sent peut-être un peu trop en ondes, mais c'est la calisse de Brigitte Bardot. Elle a tellement nui à des gens, tu sais, la chasse aux phoques pour un pêcheur, c'est comme le sirop d'érable pour un agriculteur. C'est le petit revenu d'appoint quand c'est pas dans la saison de pêche ou dans la saison de l'agriculture. C'est un petit bonus pour essayer de boucler ton année avec un peu plus d'argent, tu sais. Fait que d'aller dire à ces gens-là qui font pas beaucoup d'argent avec la chasse aux phoques en risquant leur vie parce que c'est extrêmement dangereux la chasse aux phoques, tu devrais les voir débarquer des bateaux puis courir sur des glaciers pas plus grands qu'une table de cuisine, sauter d'un glacier en glacier pour atteindre les phoques, c'est quelque chose de spectaculaire là. Puis en dessous c'est de la mer gelée là, tu tombes, tu meurs. Et puis ouais. Moi, quand Paul McCartney est allé là, j'étais tellement perdu de respect pour Paul McCartney quand il a fait ça. Mais je sais qu'il s'est fait embrigader. Je sais qu'il s'est fait laver le cerveau par des animalistes. Parce qu'eux autres, c'est ça qu'ils font, là. Ils essayent de trouver une vedette assez crédule puis assez émotive. Puis là, ils leur présentent ça comme épouvantable. Puis là, tu vois Paul McCartney avec un blanchon.
Un blanchon.
Ouais, c'est ça. Puis eux autres, ils disent « baby harp seal », un bébé fuck. Quand on emploie le mot « bébé » vis-à-vis un animal, c'est pas fait innocemment, là. Ça s'appelle jamais un bébé. Un bébé, c'est un humain. Quand on dit un bébé fuck, c'est pour humaniser l'animal, pour qu'il fasse encore plus pitié aux yeux de nous, les humains. Puis là, tu le vois, puis « we've got to save the baby hop seal, they are killed! » c'est parce que Paul McCartney est arrivé aux Îles-de-la-Madeleine dans un avion privé qui flambe du gaz épouvantable, suivi d'un autre avion avec avec sa suite, hein, parce que Paul McCartney, il arrive pas tout seul avec un sac à dos. Non, 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 il y a toute une suite pour veiller à son confort et son luxe habituel. Puis des équipes de tournage, tout ça. Puis après ça, il arrive aux îles comme ça. Là, il s'habille avec des belles combinaisons en caoutchouc faites à partir de produits pétroliers. Puis ils s'en vont en hélicoptère, à plusieurs hélicoptères, parce que ça prend un pour Paul McCartney, un pour sa suite, ses amis, et un pour l'équipe de tournage, puis l'autre pour les animalistes qui ont organisé ça. Fait qu'ils partent à plusieurs hélicoptères qui gaspillent du gaz, qui vont se poser sur une banquise en terrorisant les phoques qui vivent là. Puis là, il prend le bébé phoque, puis regardez s'il fait pitié, puis il l'a dans les mains. Oui, c'est inoffensif, il te mordra pas le blanchon. Puis oui, il y a des gros yeux, c'est triste, puis il a l'air de pleurer comme un humain. La raison pourquoi il pleure comme un humain, c'est parce qu'il y a un humain esti qui l'a pris d'à côté de sa mère puis qui était prêt de traumatiser, là. Les phoques ont pas de fun, là, quand tu t'en vas les flatter puis tu prends leur rejeton comme ça, là. Fait que, tu sais, cette expérience-là, traumatisante pour les phoques gaspiller de l'essence et des ressources fossiles, là, des énergies fossiles, oh, tout oui. Ça pour aller faire de la désinformation sur une banquise. Je trouve ça dégueulasse. Clovis, on entend les mêmes genres de railleries que les détracteurs de Greta ici. Ben écoute, écoute, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Moi, j'aime bien Greta. Je n'aime pas les groupes animalistes qui font de la désinformation. Je combats la désinformation sous toutes ses formes, ne t'en déplaise. Il y a beaucoup de désinformation sur la chasse au phoque. Le phoque n'est pas en danger. En fait, le phoque met en danger les autres espèces. L'abattage est plus... Je résume pour toi, Clovis, si t'es encore là. L'abattage est plus responsable et mieux fait que dans beaucoup d'abattoirs fédéraux. C'est supervisé par des biologistes et des vétérinaires. C'est très bien encadré. Fait qu'il n'y a pas de raison de limiter limiter à ce point-là la chasse aux phoques. Fait que moi, ce qui m'intéresse là, c'est dans l'écologie, c'est l'écologie, c'est-à-dire l'équilibre dans l'environnement. Puis là, l'équilibre est rompu parce qu'on a arrêté une chasse à cause de la désinformation puis de l'aspect spectaculaire que certains ont voulu y donner. Puis écoute, si tu peux, Clovis, si tu veux, là, donner de l'argent à PETA puis à ces groupes-là. Moi, je préfère que la supervision de l'environnement soit faite par des biologistes puis des scientifiques puis du monde qui savent de quoi ils parlent puis pas des vedettes qui pleurent à TV en ne sachant pas de quoi ils parlent.
Et au-delà de la désinformation, ben d'autres aussi qui brisent un peu ces déséquilibres des espaces équilibres. On en parlait en début de segment, les braconniers. Les braconniers, il n'y en a pas juste en Gaspésie, on en a plus près de nous, dans le coin de Montréal. Je ne sais pas si tu le savais, il existe un saumon, le saumon chinook, qu'on peut retrouver dans le fleuve Saint-Laurent, puis certains bras, dont dans le coin de Salaberry de Valleyfield. C'est un poisson qui peut être pêché, il n'y a aucun souci à y avoir là-dessus, mais il y a des méthodes pour pêcher les poissons. Et une des méthodes qui est efficace, mais interdite, c'est ce qu'on appelle le crochet. Et dans le fond, c'est un peu, comme on dit dans le jargon, le pogné en traître un poisson. C'est des lignes avec des crochets, puis le saumon est à fleur d'eau, parce que c'est dans des bras de fleuve où il n'y a pas beaucoup de tirant d'eau.
Okay.
Puis ils mettent la corde là, puis ils tirent, puis ils ramènent le saumon, puis c'est réglé. Ça se fait en quelques minutes. Ça se fait en quelques minutes parce que tu fais ça la nuit avec une lampe de poche.
Oh oui.
Un peu comme la chasse au jack. Là, c'est la même affaire, mais pour la pêche. Puis, mais ces braconniers-là sont durs. Il y a déjà eu des reportages, d'ailleurs, je ne me rappelle pas si c'est à TVA qu'il n'y avait pas eu ou à enquête. En tout cas, c'est pas des gens sympathiques, on va le dire comme ça. Puis, il y a un résident de Salaberry de Valleyfield qui, lui, a été témoin de ça et qui a tenté d'intervenir et avec aucun effet positif, on va le dire comme ça. C'est Jean-Luc Brassard.
OK.
Jean-Luc Brassard, qui est juste à côté de sa maison, justement, il y a des braconniers qui pêchent de façon malheureusement outrancière le saumon chinook. Il a essayé d'intervenir, il a appelé la police, et ainsi de suite, mais il est arrivé absolument rien. Donc, lui, il y a une...
Le saumon chinook, c'est pas au Pacifique, ça?
Le saumon chinook, c'est... Je vais te dire,
ça doit être du saumon de l'Atlantique.
J'en ai même une image. Non, c'est ça, c'est des... ben écoute, il y en a peut-être, il peut y en avoir. Attends, mais le saumon chinook, espèce du Pacifique, qui a été introduite dans les Grands Lacs en 1950.
Okay, okay.
Therefore, on en a.
OK.
Bravo. Mais... fait que là, lui, il dispose évidemment d'une chronique à la radio de Montréal. Fait qu'il a décidé d'aborder le sujet.
Il s'est fait menacer.
Il se fait menacer actuellement parce que ça date, je pense, de ce matin ou d'hier, cet article-là.
OK, Colin.
Les braconniers ont été mettre dans sa haie, sur la trampoline de ses enfants et dans la boîte à mal, des morceaux de saumon coupé.
Des têtes puis des... Ouais.
Exactement.
Sais-tu qui est complice de ce genre de braconnage-là? D'ailleurs, ça a été aussi un fléau à Montréal. Les gens pêchent des dorés dans le fleuve. Mais c'est parce que c'est payant. Et c'est pas pour eux autres, là. C'est pas pour se faire une bâche de saumon fumé, là. Ou de dorer en canne.
Et c'est ça, je me
demandais.
Il y a un marché pour ça.
Ben certainement. D'ailleurs, il y a eu un dossier qui a été fait il y a quelques années, mais j'ai rien qui me fait croire que la situation a été réglée. Mais des pêcheurs de dorés vendent ça au restaurant. Des restaurants sont complices de ça. Ça leur coûte moins cher que d'acheter du saumon de façon légale, du saumon d'élevage, ou bien pêcher responsablement. Fait que... du doré, tu peux pas vraiment... tu peux rarement acheter ça. Fait que... Puis tu peux pas pêcher ça de façon commerciale au Québec, le doré. Fait que... des restaurants se tournent vers des braconniers qui vont dans le fleuve Saint-Laurent pêcher des dorés et les vendre ensuite à des restaurateurs qui s'en mettent plein les poches. Ils sont complices de ça. Ça, c'est de la pêche irresponsable. La pêche irresponsable, c'est un fléau dont on ne parle pas souvent. La chasse irresponsable aussi. Il y a eu une époque, dans les années 70 et 80, on laissait des chalutiers pêcher dans le golfe du Saint-Laurent, notamment autour des îles de la Madeleine, sûrement ailleurs aussi, mais j'étais moins au courant parce que, bon, c'est pas mon coin. Les chalutiers, d'ailleurs, qui dans les années 90, quand je vivais aux îles, étaient encore à quai. Un chalutier, là, c'est pas pêcher avec des lignes, pis c'est pas très précis. Dans le fond, c'est un gros bateau, qui est souvent un bateau usine, ou un bateau du moins avec un grand congélateur dans la cale, et il pêche avec la méthode du chalut. Un chalut, c'est un filet qu'on laisse pas sur place à un endroit où on sait qu'il y a un banc de, je sais pas, de maquereau, de hareng. Le chalut, c'est un filet qu'on fait avancer pour ramasser tout ce qu'il y a. On regarde sur le sonar. Oh, il y a beaucoup de poissons ici. Il y a quoi là-dedans? On verra bien. Ils ramassent tout. Puis ils vident le chalut sur le pont, puis ils vont trier les espèces. Fait que le poisson qui a de la valeur, ils le mettent dans les cales. Puis le poisson qui n'a pas de valeur pour eux ou dont ils ne détiennent pas le permis, ils le refoutent à la mer mort. Fait que ça tue toutes les espèces de façon... sans discrimination, là, ça tue n'importe quelle espèce au hasard, dans des trop grandes quantités, ça a vidé la. Il y a pas juste les phoques qui ont contribué à vider le golfe du Saint-Laurent, notamment du hareng et de la morue, mais il y a aussi la pêche au chalut, qui était légale, mais qui était irresponsable. C'est pour ça qu'on n'en voit plus beaucoup de ça. C'est rendu réglementé, mais c'était long avant qu'on allume. Puis il y a aussi le phénomène des pêcheurs de l'étranger qui viennent d'ailleurs dans le monde, notamment la Norvège, puis c'est des pays scandinaves qui venaient pêcher nos morues, nos poissons dans le golfe ou à la limite des eaux internationales, ou quand c'était pas carrément dans nos eaux, avec des méga bateaux usines, comme le Dimos de Nombris. Le poisson rentre là-dedans puis il ressort en canne. Là. C'est ouais, épouvantable. Puis ils vident, puis ils n'ont aucune espèce de considération pour l'environnement ou l'équilibre entre les espèces. Ils s'en sacrent. Mais la majorité de la pêche au Canada se fait de façon responsable et dirigée et supervisée. Puis dans le même esprit de pêche et de chasse responsable, le phoque s'inscrit là-dedans et ça allait très bien jusqu'à ce que l'Union européenne cède au chantage émotif des groupes animalistes qui, eux, s'en mettent plein les poches, notamment la Sea Shepherd avec le Farley Mowat, avec le capitaine Paul Watson, qui est un pirate, là, carrément, là, il a fait de la prison d'ailleurs. Lui, il est pas bienvenu ni aux îles, ni en Nouvelle-Écosse, ni à l'île du Prince-Édouard. S'il arrive, il va se faire accueillir, il va recevoir des roches. Là. Puis d'ailleurs, si vous êtes curieux de voir à quel point ces gens-là sont agressifs, vous pouvez voir le Farley Mowat, un des bateaux de la Sea Shepherd de Paul Watson, qui se fait arraisonner par la garde côtière canadienne. Arraisonner, genre, foncer dedans, là. T'sais, pas éperonner, t'sais, le piquant dans le flanc, mais je pense que c'est le Amundsen qui vient carrément frotter le bateau pour dire, Amundsen? Là, t'es à une... Je pense que c'est le Amundsen, mais je pense...
J'ai des doutes parce que...
Ça se peut que tu connais ça mieux que moi, mais on pourrait
voir. Ouais, c'est parce que l'Amundsen, c'est un navire de recherche. C'est pas un navire d'intervention, c'est pour ça.
Ah, OK. Ben, je me trompe peut-être. C'est peut-être le Desgroseilliers ou un autre, là. Mais en tout cas, c'est des bateaux de la garde côtière qui vont...
Desgroseilliers, ça ferait du sens, puis il y a le tonnage pour en
Il est gros, ouais, il était peur. Surtout, avec le petit bateau de pirate, je me tiendrais tranquille. Ouais, ça doit être le Desgroseilliers. Mais c'est disponible, je pense qu'on peut le voir sur YouTube même, là. C'est parce que le Farley Mowat, ce qu'il essaie de faire, c'est de mettre les chasseurs en danger pour les empêcher de chasser ou qu'ils se noient eux-mêmes. Puis le brise-glace canadien vient s'interposer en frottant carrément. Là. Ils les avertissent plusieurs fois. « Tasse-toi, là, t'es dangereux, tu vas tuer du monde, tu rends ça dangereux, tasse-toi. Oh, on se tasse pas des pirates! Ah ouais, moi, je m'a tassé. » Puis je peux-tu vous dire qu'ils se tassent?
Ce qui est plate, c'est parce que après ça, c'est de la peinture. Hey, tu savais combien ça coûte à la garde côtière canadienne, l'entretien des brise-glaces, ben de toute la flotte, dans le fond, au niveau de la peinture. Là.
Mais si ça sauve des vies, je suis en faveur de la dépense.
Mais c'est encore surprenant qu'il existe encore du braconnage, Frank, à cause des amendes.
Hey, non, mais dès qu'il y a de l'argent à faire, il y a du crime. Il n'y a pas une amende, ni une peine de prison, ni même la peine de mort qui décourage les criminels d'être des criminels. Regarde aux États-Unis, là, il y a des États où ils font la peine de mort, puis les autres, ils s'en vont en prison, dans les pires prisons d'Amérique. Puis ça n'empêche pas que le taux de criminalité est très élevé. La punition, l'effet dissuasif des punitions est très, très, très diminué, probablement parce que les criminels pensent qu'ils se font pas pogner. Puis il y en a beaucoup qui sont dans l'inconscience, non pas la conscience du danger ou de ce qui pourrait leur arriver. C'est impulsif, puis go, on le fait. Puis il y en a qui disent qu'ils sont sûrs qu'ils se font pas pogner. C'est pour ça que ça continue. Puis il y a de l'argent à faire. C'est surtout qu'il y a de l'argent à faire. Écoute, on va l'a fait pas mal de sujets. En fait, on n'a pas fait beaucoup de sujets, mais on a fait longtemps sur ce sujet-là. Il y a d'autres choses dont je voulais vous parler, mais écoute, l'environnement, ça nous a emporté. Puis je pense qu'on a réussi à faire quelque chose d'intéressant. On a réussi à faire fâcher quelqu'un. Je suis désolé si je vous ai fâché, mais mon opinion, c'est celle-là, d'après ce que je sais, d'après les renseignements que je vais chercher auprès de sources scientifiques et non pas auprès de parties intéressées qui font de l'argent en faisant peur au monde puis en faisant de la désinformation. Le crachoir, comme l'Express, va toujours être contre la désinformation, même si elle vient de gens qui le font supposément pour protéger l'environnement. Souvent, quand on enquête un petit peu, on se rend compte que c'est très payant de protéger l'environnement quand tu mens aux gens, puis quand tu fais appel à leurs émotions pour aller chercher de l'argent. Ceux qui ont vraiment une influence positive sur l'environnement, ce sont les biologistes, les chercheurs, les scientifiques, ceux qui ont étudié, qui travaillent pour des organismes ou pour le gouvernement, pour justement comprendre l'environnement puis trouver les meilleures façons de l'exploiter sans le surexploiter. Parce qu'on n'a pas le choix de l'exploiter. On est des animaux qui vivent sur cette terre. On est beaucoup trop nombreux. Si vous voulez faire quelque chose de vraiment, vraiment en faveur de la planète puis de l'environnement, ne vous reproduisez pas. C'est la seule... C'est la façon la plus efficace de lutter pour l'environnement.
Et juste pour terminer, parce qu'on parlait de brise-glace, on parlait de la Fred Amundsen. Je sais que la Amundsen, c'est également un brise-glace. C'est presque une condition sine qua non, de toute façon, pour pouvoir faire de la recherche dans le Grand Nord. Sauf que son mandat, sauf erreur, il est souvent cantonné aux mêmes endroits pendant de très longues périodes et non pas, il n'y a pas une nature d'interventionniste comme justement le dégroseillier dont on parlait. Puis je tiens à le dire... C'est la chapelle, j'aimerais ça qu'on jase justement là, de ce que tu as écrit dans le chat. Ça m'intéresse beaucoup pour avoir beaucoup de membres de ma famille qui ont travaillé toute leur vie dans la garde côtière canadienne. J'aimerais ça en savoir plus là-dessus. Puis pour terminer, on pourrait terminer ça par une note plus festive et joyeuse.
Mais avant que tu le fasses, je veux juste que vous suggérer d'aller googler Farley Mowat, F-A-R-L-E-Y, Mowat, M-O-W-A-T-T. À raisonner. Dans les résultats de recherche, il y a un paquet d'informations pertinentes, notamment du gouvernement, mais aussi de Radio-Canada. Je fais juste lire les titres des résultats de recherche. Ottawa saisit le Farley Mowat. Une autre nouvelle, les animalistes au banc des accusés. Mesure d'application de la loi contre le Farley Mowat. Le navire saisi, le capitaine arrêté. Fait que, tu sais, c'est il y a des articles du Devoir, tout ça. Il y a beaucoup d'informations par rapport à ça. Et si vous tapez ça sur YouTube, Farley Mowat, Sea Shepherd, à raisonner, garde côtière Canada, vous allez certainement trouver ça. Je dis pas que les animalistes ne mènent pas certains combats qui valent la peine d'être menés, mais dans le cas du phoque, ils ont tort. Mais pourquoi? Puis ils savent qu'ils ont tort. Mais pourquoi ils persistent? C'est extrêmement payant. Vas-y. J'ai terminé.
Mais sinon, tout le monde, ce soir, gardez l'œil ouvert. Les temps ensoleillés de la journée va tranquillement laisser place à une belle couverture de neige. Donc, on annonce un bon 10 cm de neige dès ce soir sur le Québec. Donc, à toutes et à tous, s'il vous plaît, demain, soyez prudents sur les routes pour ceux qui auront à se déplacer. Mais si vous êtes aux prises, comme bon nombre de nous, à devoir rester à la maison pour surveiller les enfants, profitez-en justement pour sortir faire des petits bonhommes de neige avec les tout-petits.
Je sais pas un commentaire. quand la Sea Shepherd va faire chier des Japonais qui explosent des baleines, j'ai pas de problème avec ça. Non, moi non plus. C'est de la chasse au phoque que je parlais. OK. Hey, bonne journée, puis on se reparle demain à midi. Salut, Alex.
Hey, salut, Frank. Bye, tout le monde.
Membre de la famille H2O Web Media.